Et en fait, Mesechet Yuma, nous sommes Daf Ayin Dalet Amud Bet. Ayin Dalet Amud Bet. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? D'accord. Alors, Tanu Rabbanan, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. S'incline au début. Alors, mettez peut-être un par écrit pour les prochains qui rentrent, que nous sommes Yuma, Ayn Dalet, Amud Bet. Nous commençons la sixième ligne, la cinquième ligne où c'est marqué Tanu Rabbanan. Voilà. Yuma, tu as marqué Yotze, un minute, il faut marquer Yuma. Sergio, tu as marqué Yotze. Yotze, Ayn Dalet. Il faut marquer Yuma, pas Yotze. D'accord. Alors, Tanu Rabbanan, les Chachamim, ils ont enseigné. Te'anu et nafshotichem. Vous devez faire souffrir vos âmes. Donc, ça, c'est le verset, la base, les lois de Yom Kippour. Vous devez faire souffrir vos âmes, à part qu'il y a aussi Mikra Kodesh Kol Malacha Lo Te'asu. Tout travail, vous n'avez pas le droit de faire. Tous les Yamim Tovim, on a le droit de faire. Achashia Yachel Chol Nefesh Ule Bado Yassilachem. Les autres Yamim Tovim, on a le droit de faire Malechet Ochel Nefesh, ce qu'on a besoin pour la nourriture. Par contre, Kippour, il n'y a pas de nourriture, donc c'est comme Kodesh, c'est Mikra Kodesh, Kol Malacha Lo Te'asu. Alors, à part ça, Yom Kippour, il y a un halakha qui s'appelle Ta'anu et Nafshotichem. Ça veut dire quoi? Vous allez faire souffrir vos âmes. Mais après, on va voir la Gemara, hein? Ce n'est pas exactement la bonne traduction. Peut-être la traduction, oui, mais ce n'est pas le vrai sens. Vous devez faire souffrir vos âmes. En vérité, la vraie, on verra dans la Gemara, c'est plutôt, vous devez priver le corps de certains plaisirs, des choses qui enlèvent la souffrance. Vous devez priver le corps de ceux qui donnent un bien-être au corps. C'est ça la traduction. Alors, on va commencer la Gemara. J'aurais pu croire que l'homme doit s'asseoir au soleil et il attrape une souffrance d'être trop, c'est trop chaud au Betsina. Ou peut-être l'homme doit se mettre dans le froid. Peut-être c'est ça la mitzvah, faire souffrir le corps. Ça veut dire, étant donné que la Torah nous a pas dit de pas manger, de pas boire, de pas se laver, c'est pas marqué dans la Torah. La Torah prend un subjectif, Te'anu, souffrance, mais elle ne nous dit pas de quelle souffrance il s'agit. Évidemment, la halakha de Moshe Missina et Moshe Rabbeinu, il a entendu de Moshe, de Hashem dire, il s'agit de ne pas manger, de ne pas boire. Ça, c'est Vadaï. Hashem lui a donné l'explication. Mais nous, ce que nous cherchons cette tradition que Moshe Rabbeinu a reçue, nous le cherchons dans le texte. Parce que pour les bases de toute la Torah orale, il y a deux limudim, il y a deux moyens de les connaître. Un moyen, c'est la traduction orale que Moshe Rabbeinu a reçue. Et la deuxième, c'est de, à travers le texte, on voit que c'est écrit en vérité la Torah orale. Ce sont les deux yesodot que chacun qui étudie la Gemara, il connaît. Et des fois, il ne reste que la tradition orale, ce qu'on appelle halakha de Moshe Missinaï. Et parfois, la tradition n'était pas transmise bien et nous sommes obligés de le chercher à travers le texte. Mais à travers le texte, nous pouvons la retrouver. Mais les grands yesodot, les choses basses, vadaï, la tradition ne s'est jamais arrêtée sur presque la majorité de la Torah. Et nous avons les deux choses. Maintenant, la Gemara nous dit, Yachol, j'aurais pu croire, Yeishé Bachama, qui s'assoit dans le soleil, au Betsina ou dans le froid, peut-être c'est ça que le bon Dieu veut. Kedesh Yitztaer, afin qu'il a du tsar, l'homme, il doit se faire souffrir, il doit se faire du mal. C'est ça peut-être Hachem, il veut. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que le bon Dieu gagne? Ah, ça, tu te peux demander maintenant aussi. Il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Donc, l'homme, il souffre d'absence de nourriture. Tu peux aussi demander qu'est-ce que le bon Dieu y gagne. Évidemment, c'est l'homme qui gagne. Le fait que son corps n'est pas dans un état de plaisir, ça réveille certaines réflexions. Ça réveille les réflexions de la faiblesse de l'homme. Que l'homme, il est faible et qu'il faut rappeler qu'il y a un patron ici, que notre vie dépend de quelqu'un. C'est ça l'idée maîtresse de faire souffrir Kippour. C'est affaiblir le confort de l'homme qui est justement un outil du Yetzer Hara ou un outil tout court qui est un moyen de faire oublier qu'il y a le Borei Olam, que notre vie dépend de lui. Le confort absolu peut faire oublier à l'homme. Et donc la faiblesse du corps, alors que Bar Minan il est malade, il est plus proche d'Hachem. La Shrina il est sur un malade. Pourquoi? Parce que justement que l'homme, il n'a plus son soutien de son corps comme il faut. Et il sent que sa neshama, elle est attachée légèrement avec le corps. Elle est moitié dans le corps, moitié plus dans le corps. Donc, mais on se sent plus proche d'Hachem. Maintenant, Yom Kippour, la Torah demande que tu réveilles artificiellement cette faiblesse. Donc, j'aurais pu croire qu'il faut aller au soleil ou il faut aller dans le froid, Kedeshi Itzta'er, afin que l'homme il a du Tzahar. Talmud Lomar, la Torah nous dit non, ce n'est pas ça le sens. Vechol melacha lo ta'asu. Tout travail, vous ne faites pas. De la même façon que vis-à-vis des travaux, ce chef reste assis, ne bouge pas, va al tassé, ne fait pas ce geste. Il s'agit d'un négatif, il s'agit de ne pas travailler. Ainsi, quand la Torah nous parle de souffrir, faire souffrir le corps, il s'agit d'une façon qui n'est pas actif, mais d'une façon passive. Ne travaille pas, ça veut dire ne mange pas, ne te donne pas plaisir, ne mange pas. Il ne s'agit pas de faire un geste, de faire souffrir. Le ta'anou doit être mis en comparaison avec ne travaille pas. Pas travailler, ça veut dire rester passif et pas travailler. Comme ça, fais quelque chose passivement pour que tu souffres. Alors c'est quoi? C'est de se priver de la nourriture. C'est de priver de la boisson. Alors, comment on nous dit, mais j'aurais pu dire autrement. Echediativ Beshim, c'est celui qui est assis au soleil, Vechayem Lei, et il a chaud, Loneim Lei, Kum Tuv Betule. On lui dit, ne t'assois pas à l'ombre. Peut-être tu as raison. Il s'agit peut-être de faire passif. Mais je peux m'imaginer l'histoire du chaud et du froid de façon passive. Un homme, il est assis au soleil. Maintenant, il dit, ah, c'est trop chaud, je souffre, je vais aller à l'ombre. La Torah dit non, reste dans un état de souffrance. Il ne faut pas que tu fasses un geste qui te rendra plus agréable la vie. Ça veut dire le geste d'aller à l'ombre. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ou yativ betula. Ou si quelqu'un il est assis dans l'ombre, avec karirle, il a froid. Alors, il veut se lever pour aller au soleil. On lui dit non, ne te lève pas, tu ne peux pas aller au soleil. Alors, d'après cette proposition, le Ta'anou et Napshotichem ne s'appliquerait que dans le cas où un homme se trouve dans une certaine situation. Si on se trouve au soleil et on souffre, ou si on se trouve dans l'ombre et on a froid, dans cette situation, la Torah t'est interdit de changer ta position pour s'arranger, pour rendre agréable. Mais dans le cas où l'homme il est déjà dans une situation agréable, là, la Torah n'a rien donné. Alors, Gemara nous dit non, ce n'est pas possible ta proposition. Parce que Doumier de Malacha, parce que le Ta'anou va être comparé au Malacha. Ma Malacha, l'Ochilak Taba, Af Inouï, l'Otach Logbo. Dans le Malacha, c'est dans toute situation, il est possible pour un homme de faire un travail. Dans n'importe quelle situation que tu te trouves, tu peux ou faire un travail ou pas faire un travail. Et la Torah a parlé à tous les gens, ne pas des travaux. Donc la même chose vis-à-vis du Inouï. La Torah s'adresse à monsieur tout le monde. Donc que tu sois assis au soleil ou tu sois assis au froid ou tu sois assis dans un endroit agréable, la Torah doit me donner un commandement de faire souffrir le corps pour toutes les situations. Or, d'après ta proposition, c'est tout le Tanut Nafshotichem, c'est pas se lever quand on est au soleil pour aller à l'ombre. Ça ne s'adresse qu'à une catégorie de personnes, des catégories de personnes qui se trouvent maintenant dans une situation dérangeante. Mais l'homme qui est bien, qui est dans sa maison ni chaud ni froid, pour lui la Torah dit rien. Et ça, c'est pas possible. Tanya Idach. Maintenant, nous avons une deuxième braïta. Tanut et Nafshotichem. Vous devez faire souffrir vos âmes. Yachol, j'aurais pu croire, Yeishé Bechama, il doit aller s'installer dans le soleil, ou Betsina ou au froid, Bitzter, pour avoir du tsar. Talmud Lomar, Bechol Malacha, Lota Asu. Ma Malacha, Davar Shechayavi Malach, Bemakom Acher,
Rabban, il y a une question. Quand on est aujourd'hui à Yom Kippour dans nos synagogues, ou quand il fait chaud, par exemple, on est à Jérusalem, il y a la clim, on est bien assis dans des fauteuils en velours, on est tranquille et tout, on a quand même du plaisir. Même si on ne mange pas et on ne boit pas, on éprouve quand même du plaisir.
Mais la Torah n'a pas interdit ce genre de plaisir. Mais je voulais dire que, mais je croyais que vous allez dire autre chose. Si nous sommes aujourd'hui dans une choule et il est très chaud, des fois c'est étouffant.
Oui.
Est-ce que le fait de prier dans une choule qui est étouffante, est-ce que c'est plus de mitzvah ou c'est pas plus de mitzvah?
Moi, personnellement,
étant donné qu'on va dans la Gemara, il y avait une Hava Mine, que quand la Torah nous dit à nous, ça veut dire justement va au soleil et souffre de la chaleur. Donc une Hava Mine, peut-être c'est aussi une idée. C'est-à-dire, il monte à l'esprit de la Gemara une idée de quoi? De la souffrance, de la chaleur, c'est ça que la Torah demande. Donc peut-être on pourrait déduire de la Gemara, bien que la loi ne cristallise pas autour de la question à savoir chaud ou froid, c'est la question de Yom Kippour se cristallise autour de manger ou pas manger, la privation de manger. Mais on voit dans la Gemara que des Chachamim, il y avait une logique de dire que la souffrance du chaud et du froid, c'est ça que la Torah veut. Donc, je déduis de la Gemara que si quelqu'un il est dans une choule où c'est chaud et il se plaignait, oh là là, qu'est-ce que c'est comme hier, j'ai trop chaud, eh bien, il pourra se calmer en disant, pas grave, je suis mekayem le tanuet nafshotichem aussi selon la formule de la Hava Mine, parce que la Hava Mine, elle n'est pas retenue pour la halakha. Mais la Havamina est une logique que Chachamim avait dans la tête. Il y a qu'un homme qui est dans un choul avec chaleur et il souffrait, eh bien, il peut se contenter de dire, d'accord, je suis mekayé maintenant le Tanu et Nafshotichim. Alors, on va continuer. Le Chol, Ma Melacha. Alors, j'aurais pu croire, la deuxième prête, j'aurais pu croire qu'il faut se mettre au soleil ou au froid. Al-Modomar, le Chol Melacha, l'Ota Asu. Ne faites pas des travaux. Ma malacha, d'avoir se chayavim alaf, b'makom acher. Av inu nefesh, d'avoir se chayim alaf, b'makom acher. Ve'eizeze, ze pigul venotar. Ze pigul venotar. Ça veut dire, la Torah cherche. Une seconde. Ça veut dire, la Gemara cherche au sujet de Ta'anou qu'il s'agit d'une privation de nourriture. Pourquoi? Parce qu'il existe une melacha shechayavim alav makom acher. Il existe dans la Torah certaines nourritures qu'on consomme que la Torah interdit. Comme par exemple, un homme il va manger pigoul ou il va manger notar. C'est assour. Alors donc, comme il existe une nourriture ingurgitée de nourriture que la Torah a interdit, donc le ta'anu et nafshotichem correspond à une nourriture. C'est comme la Torah nous dit, Kippour, tu ne mangeras pas pegul venotar. Alors le Gemara nous dit, avi pigul venotar chez Bekaret. Peut-être la Torah interdit que pigul venotar mange Kippour, parce que ça, c'est un rêve karet, velo et tevel. Mais manger tevel chez Eino Bekaret, qu'on n'est pas rêve karet, peut-être ça c'est permis de manger Kippour. Talmud Lomar, à nous, veinet metafchokhem, riba, ya ribouy. Une fois ça marqué ta à nous, une fois ça marqué veinitem, riba c'est marbe même tevel. Avieta tevel, j'aurais pu croire la Torah interdit que manger tevel, shibe mita, on est chayav mita bide shamayim, velo avieta nevela, mais c'est permis de manger nevela, ça tu en kippour, shayne bamita, amand lomar ta à nous, veinitem metafchokhem, riba, c'est marbe ça aussi. Aviet en Nevela, donc je peux comprendre en Nevela, Shibela, Velo Avita Choulin, mais manger Choulin, le Choulin, il n'y a aucune Avera. Peut-être ça c'est permis de manger Kippour, Cheinon Belav, il n'y a même pas de lav, Amadlomatanu, Vinite, Medav Shotechem, Riba, c'est Marbe aussi. Avia Choulin, Cheine Bekoum Achol, peut-être je n'ai pas le droit de manger Choulin Kippour, parce qu'il n'y a pas de Achol, parce qu'il n'y a pas de mitzvah. Mais peut-être Trouma est permis de manger Kippour parce qu'il y a une mitzvah pour les Kohen de manger Trouma. C'est non, c'est aussi inclus, c'est toujours le même pasuk. Peut-être seulement Trouma, on n'a pas le droit de manger Kippour parce qu'il y a une mitzvah de manger, mais il n'y a pas d'interdiction de le laisser pour demain. Mais Kochim, que je dois manger aujourd'hui, je n'ai pas le droit de laisser demain. Alors peut-être ça, j'ai eu le droit de manger Kippour. Amodlomat, anouet nafshoterem, vinitem nafshoterem, riba. Et Kitsour, la Gemara, elle vient sur le Yesod, que le Ta'anou doit être quelque chose de nourriture, parce qu'il existe des nourritures qui sont interdites. Maintenant, le Ta'anou, vinitem, c'est pour inclure toutes sortes de nourritures. Pas seulement tu n'as pas le droit de manger pendant Kippour, Pigol Venotar, pas seulement tu n'as pas le droit de manger Tevel, pas seulement tu n'as pas le droit de manger Nevela, pas seulement tu n'as pas le droit de manger Choulin, pas seulement tu n'as pas le droit de manger Teruma, pas seulement tu n'as pas le droit de manger Kochim, tout est interdit de manger. Vim Nafshach Lomar, et si.
Excusez-moi, Notar, c'est interdit. Notar, c'est interdit. Pourquoi on me le met à la fin alors qu'on m'a senti que les choses permises au fur et à mesure? Et à la fin, on me sort notar. Je n'ai pas compris la logique.
Non, c'est le berlan, monsieur. Le notar, c'est le premier. Le notar, c'est le premier, pas le dernier. Pigol venotar, avec ça, ça a commencé. Quand on dit à la fin, kochim, achilat kochim, qui n'est pas notar, j'aurais pu croire qu'on a le droit de manger un kochim kshirim, parce que kochim kshirim, c'est une mitzvah de manger, et il faut faire attention que ça ne reste pas jusqu'à demain. Le dernier que la Gemara inclut, c'est manger achilat kochim ou yamitzvah de manger. Mais le notar, c'était la première des choses qui était interdite. Alors, vim nafshach lomar.
Ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire que le teranu et nafshotechem, c'est lui qui nous dit, verinitem et nafshotechem, pardon. C'est ce pasouk-là qui nous met carrette si on mangeait.
Oui, c'est juste, monsieur.
Ce pasouk-là.
Et si tu n'es pas content avec tout ce qu'on vient de dire, si tu as quand même quelque chose à retorquer pour faire tomber tout, alors je t'apporte un deuxième pasouk. Aré Omer, nous avons un deuxième pasouk. Ça veut dire, il est marqué en chumash que celui, kol hanefesh, asher lo tu'une be'etzem hayom hazeh, tout homme qui ne veut pas faire souffrir ce jour-là, va avadeti, et je vais faire perdre et un effeshahi, cette personne. Ahi inui shehi avedat anefesh. Ve'eize ze, ze achila ushtia. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que la Torah menace la personne qui ne fait pas les inui de va avadeti et un nefesh, je vais faire perdre le nefesh, ça veut dire il va mourir. Alors, quelle est la chose qui fait mourir l'homme? C'est la privation de manger et de boire. Donc, avec le mot « vadeti », c'est comme si la Torah veut dire « Vous avez intérêt de vous priver pendant Kippour de manger, parce que si vous n'allez pas vous priver, moi, je vais m'occuper de vous. et je vais vous faire perdre l'âme. Et comment on fait perdre l'âme à quelqu'un? On le prive de manger, de nourriture. Alors donc, moi aussi, je vais vous priver après. Donc, vous avez intérêt un jour vous priver, sinon je vais vous priver jusqu'à où?
C'est pour inclure la ch'tia?
Achila ou ch'tia, les deux choses. On est
parce qu'en fait, tout ce qu'on a dit avant, c'était que achila. Et là, maintenant, le fait de risquer de mourir, c'est vrai que lorsqu'on ne boit pas d'eau, eh ben, on risque beaucoup plus rapidement de mourir. Alors peut-être ici, ça vient. C'était ça la question que la personne aurait pu penser, ça n'aurait pas suffi de toutes les réponses d'avant?
Non, il n'y a pas de différence entre manger et boire, étant donné que dans tout ce qu'on a dit, ça existe manger et boire. Par exemple, Terouma, tu peux boire le vin de Terouma. De notar, tu peux manger une soupe de notar. Tevel, l'église de Tevel, l'huile d'olive, qui est Tevel, c'est aussi manger, aussi boire. Alors on va continuer. Maï ve'im nafshach lomar. La Braïté nous a dit, après tout ce qu'on avait dit que malacha, il faut quelque chose qui est une avéra dans la Torah. Donc on avait dit une avéra de la Torah, ce sont les ma'achalot asurot. La Gemara, elle a demandé, et si tu veux tout réfuter, si tu as quelque chose à retorquer pour réfuter le phénomène qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de nourriture. Alors, on demande, quel a été ici? Le Tanne n'a pas exprimé. Il a laissé sous-entendre qu'il y a un argument pour faire tout tomber. Quel est donc cet argument avec lequel on aurait pu tomber? Alors, la Gemara développe. Parce que tu peux dire, arayot kemishta ekra. La Torah, elle parle arayot. Peut-être la Torah veut nous dire, vi'initem, vous allez faire souffrir. Ça veut dire, vous n'allez pas vous faire plaisir avec les arayot. Et les arayot, c'est quelque chose que la Torah, elle a interdit ailleurs. Donc peut-être, c'est ça que la Torah veut dire. Qui pour faire souffrir de arayot? Arehu Omer, sur ça, il est marqué, vahavadeti hanefesh. Inui, sheishbo avedat nefesh. Veizeze, zeachila ushtia. Un homme qui va se priver d'une femme, il ne va pas mourir. Ça, ce n'est pas mortel. Mais se priver de manger et boire, ça, c'est mortel. Donc, la Torah parle d'un inouï que si on le fait trop longtemps, l'homme, il meurt. Donc, il ne s'agit pas d'un rayot. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné autrement. On cherche toujours, les chachamim cherchent à prouver du texte que inouï veut dire privation de manger et boire. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné. Ne'emar kan inouï. Ve'ne'emar la halan inouï. Ma la halan inouï ra'avon. Afkan inouï ra'avon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est marqué la halan plus loin, il est marqué inouï. Où il est marqué inouï? Vous avez Rashi. Ve'ne'emar la halan inouï. Vaya ancha, vaya rivecha, vaya achilcha et aman, asher lo yadun avotecha. Vaya ancha, le texte il dit, Dieu t'a fait souffrir dans le désert. Quand on était dans le désert, plusieurs jours, on n'avait rien à manger. Vaya vo bne Israël mit barsin, et il n'y avait pas quoi manger. Ils sont venus chez Moshe, ils ont dit, on va mourir de faim. Et Hachem leur a donné la manne. Donc, Vayancha, il t'a fait souffrir. Vayaribecha, il t'a affamé. Vayachilcha, il t'a man. Il t'a donné à manger la manne. Donc, on voit ici que la privation de nourriture est appelée dans la Torah inouï. Donc, quand la Torah nous dit tiens à nous, ce mot-là, il faut le chercher dans la Torah à un autre endroit. On va aller le rechercher. La Torah nous dit tiens à nous. Nous cherchons quel est le sens de tiens à nous. Donc, nous allons faire le chumash. Nous allons trouver dans le chumash, vayancha, vayarivecha, il t'a fait souffrir, il t'a affamé. La Torah voit que le mot affamé, c'est ça, faire souffrir. Ça, c'est ce qu'ils ont dit chez Rabbi Ishmael. Ma lahalan ainoui ra'avon, l'inouï de famine, afkan inouï ra'avon. Alors, la Gemara demande, veneilaf, mi'im te'ane et benotai. Là-bas, on parle que Lavan, il a dit à Yaakov, tu n'as pas le droit de priver mes filles de rapport. Imtane, si tu vas faire souffrir mes filles. Il avait tellement peur, Lavan. vont être maltraités par leur monstre de mari à Yaakov. Il est gros celui-là. Yaakov, le plus gentil des gentils. Et ce Lavan, non, c'est Lavan, le grand raffiné grand-père, très soucieux de ses filles. Il n'a jamais donné un centime, qui les a mariées en profitant cette année de travail pour chacune. Lui, le milliardaire qu'il était. Et il dit à Yaakov, tu n'as pas le droit de faire souffrir mes filles en les privant de leur droit conjugal. Alors, en tout cas, là-bas, Lavan, il a dit à Yaakov, imtehane, si tu vas faire souffrir mes filles, tant qu'on voit que la privation des rapports, la Torah, elle appelle inouï. Donc, je peux toujours dire que quoi? Tahanou et nafshotechem kippour, ces privations. Mais ne le font qu'à dire, mais imtehane et benotai. Alors, on répond. Danin inouï de rabim, mais inouï de rabim. Vein danin inouï de rabim, mais inouï de yachid. Là-bas, il s'agissait de deux personnes. Tu vas priver mes filles. Donc, il s'agit de deux filles ou de quatre filles, les quatre femmes de Yaakov. Mais ça, c'est inouï de yachid. Mais vis-à-vis du peuple juif, on nous dit, va y arriver, tu as fait souffrir tout le peuple. Et qui pour la Torah s'adresse à tous les peuples. Elle dit, le peuple entier, un inouï du peuple entier. Et les inouïs là-bas, il s'agit de quelque chose de privé.
Yaakov, c'était le peuple juif à l'époque.
Yaakov et ses femmes, c'était quatre personnes. Lavan se souciait de quatre personnes. La Gemara demande, Veneilef, mais inouï de Mitzrayim. On n'a qu'à apprendre de la souffrance des Juifs en Égypte. Irti Vayar et Onyeinu. Dieu, il a vu notre souffrance. Vamrinan, et nous avons interprété Zouprisha Derech Eretz. Où nous avons interprété ça? Dans la Haggadah Shel Pesach. On dit Prisha Derech Eretz, la séparation, le fait que les Égyptiens, ils ont installé une séparation entre l'homme et les femmes, ont renvoyé les hommes qui travaillaient loin, ou les femmes, de façon qu'ils avaient du mal à se rencontrer. Alors donc, c'est ça que la Torah appelle « On y est, nous, notre souffrance ?» Et là-bas, il s'agit du public. Alors, comment répond ? Et là, il faut dire autrement. « Danim inouï bidei shamayim, mi inouï bidei shamayim. »« Ve'en danim inouï bidei shamayim, mi inouï bidei adam. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Rashi. « Inouï bidei shamayim, yom kippourim, mitzvat » Melechi, c'est Dieu qui a instauré de ne pas manger. Vechen inouï Haman, c'est Dieu qui les a privés de manger, donc ils n'avaient pas le man, ils ne pouvaient pas manger. Par contre, dans l'histoire de quoi? Dans l'histoire de Vayar et Onyenu, c'est les Égyptiens qui ont provoqué les inouï, c'est des humains qui ont provoqué les inouï. Mais la Torah, Yom Kippour, demande un inouï qui vient du ciel. C'est quoi la logique? Est-ce que ça change si ça vient du ciel ou si ça vient d'un homme? Ça veut dire, quand on est en Égypte, c'est les Égyptiens qui ont provoqué la séparation des hommes et des femmes. Et quand les Juifs étaient dans le désert, c'est Dieu qui a provoqué qu'ils ont souffert de la famine. Ce que la Torah veut Yom Kippour, et le inouï de Yom Kippour sera quelque chose qui vient du ciel. Pas quelque chose qui vient des hommes. Il faut que l'homme il ressent que c'est Dieu qui le prive du plaisir. Donc il faut trouver une interprétation du inouï dans la Torah où ça venait de Dieu et pas que ça venait des humains. Maintenant, en vérité, quand la Gemara nous dit ici inouï, vis-à-vis de la manne, la première traduction, vaya ancha, il te fait souffrir, va y arriver, il t'a affamé, il t'a donné à manger la manne. Cet affamement n'existait qu'une journée. Le premier jour, quand ils sont arrivés dans Midbar Sin, ils étaient le 15 Iyar ou le 14 Iyar, et pendant une journée, ils n'avaient pas quoi manger, et ils étaient terrorisés. Et le lendemain, tombait la manne, ça y est, maintenant on n'a plus souffert. Alors la première lecture, elle est, va y arriver, elle t'a affamé pendant une journée. Mais la Gemara nous dit en vérité, pas comme ça. Mais toutes les 40 ans, les Juifs, ils ont souffert de faim. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de quoi? De laisser la nourriture, la manne pour demain. Ils étaient obligés de manger le même jour. Et quand on mange le même jour et on ne sait pas où est la nourriture demain, eh bien, ça donne faim. Parce qu'on dit, le miché et l'opat besalo ne ressemble pas au sentiment de l'homme qui a du pain dans son panier ou de ceux qui n'ont pas du pain dans son panier. Quand on a de l'argent, quand on a du pain ou de l'argent pour acheter du pain pour demain, pour après-demain, alors on est tranquille. Mais celui qui ne sait pas où il y a le pain pour demain, ça dépend, il faut que ça tombe du ciel, il faut que quelqu'un ait pitié de lui. Alors il n'est pas rassasié, il a faim, il n'est pas tranquille, c'est une souffrance. Donc le Moran nous dit que le vaya ancha, vaya rivecha, vaya achilcha et aman, il te fait souffrir, il t'a affamé, il t'a donné aman. Ça a duré 40 ans, tous les 40 ans, les gens, ils ont souffert. Bon, c'est ce temps pour comprendre ici, la Torah, ici, elle compare les Inouïs de Yom Kippour aux Inouïs qui étaient dans le désert. Il avait tout le temps un Inouï. Alors, on va continuer.
Excusez-moi, la page, le Daf.
Nous sommes à Yuma, Aïn Dalet, Amoud Bet.
Merci.
Nous sommes à peu près 6-7 lignes avant la fin. Rav Ami Verabasi. Chad Amar et Inon. Ah, la Gemara dit Rav Ami Verabasi. Une minute. Amachil Cha Man Bamidbar. Il t'a donné la manger la manne. Amidbar, le man, un autre, afin de faire souffrir. Rabbi Mivrabasi, Chadamar, il dit, Ein domi miche eshlo pat besalo, miche eshlo pat besalo. Donc, c'est ça la souffrance. Mais Chadamar, il dit, Ein domi miche ro.
Et pourquoi ce ne serait pas aussi, excusez-moi, et pourquoi ce ne serait pas aussi ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Pourquoi pas les deux?
Qu'est-ce que tu dis?
Peut-être c'est les deux. Il y a deux termes. Il y a un terme sur le bon Dieu, ce qu'il a fait.
Toi, tu poses la question. Dieu, il a vu notre souffrance. Ça se rapporte sur Prishu Derech Eretz. Peut-être le Bayar et Onyenu se rapporte pour une privation de nourriture. Voilà, ça c'est Takushia. Et si ce n'est pas Takushia, là c'est Makushia. Qui a raconté au Chachamim, Vayaretonienu prishu derech eretz, peut-être Vayaretonienu, c'est une privation de nourriture. Bon, peut-être ils n'étaient pas tellement privés de nourriture, parce que quand ils étaient dans le désert, ils ont dit, Zachar no et adaga, asher nochal be mitzrayim chinam, on se rappelle le poisson que nous avons mangé en Égypte, gratuit. Alors qu'en Irée, ils avaient des poissons gratuits là-bas. Alors peut-être ils étaient bien nourris en Égypte. Peut-être ça ne leur manquait pas. Ce n'est pas Mistaber. Mistaber, ça leur manquait, oui. Alors je ne sais pas. Bonne question.
Non, ma question, excusez-moi, c'est là-bas, en Égypte, on a deux termes. Veinitem.
Deux termes. Oui, il y a deux termes en Égypte.
Non, en Égypte, il y a un terme, et dans le désert, il y a un terme. Mais pourquoi choisir l'un des deux? Et pas pour, pourquoi pas dire que cette souffrance, cette initème-là, c'est deux choses?
La Gemara nous a répondu à cette question. « Ma inouï bedei shamayim, af inouï bedei shamayim. » Nous comparons le Tanut Nafshotichem, nous devons le comparer à un inouï. Et le inouï en Égypte est venu de Bassar Vadam, c'est les Égyptiens qui nous ont privés. Par contre, les Inouïs dans les déserts, ils venaient du ciel. Et chez Yom Kippour, les Inouïs viennent du ciel. Donc là, on dit qu'on compare Inouïs des Shemaïm et Inouïs des Shemaïm. Je continue. Chadamar 1, il dit Enedome, Miche Roev Ochel, Miche Eno Roev Ochel. Ne ressemble pas celui qui voit ce qu'il mange à ceux qui ne voient pas ce qu'il mange. C'est-à-dire, regarder la nourriture. C'est quelque chose qui fait partie de rassasissement. On se rassasie. Ça veut dire quoi? Lisons Rashi. Rashi dit, Ein lo pat besalo, un homme qui n'a pas du pain dans son panier, ochel hayom, il mange aujourd'hui, vedo eg, il se soucie à la machar pour demain. Le souci pour demain fait que l'homme il a faim aujourd'hui. C'est phénoménal. C'est phénoménal, c'est un phénomène psychologique. Tu manges aujourd'hui, mais tu as le souci, ce que tu manges demain, eh bien, le souci fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas rassasié. Mais celui qui a quoi manger demain, quand il mange, il est rassasié. C'est-à-dire, le rassasiement, le sentiment de rassasie, n'est pas seulement un phénomène purement physique. Il y a une partie psychologique dedans. Le souci qui est dans la psychologie crée que le ventre n'est pas rassasié. L'homme ne ressent pas qu'il est rassasié. C'est phénoménal.
Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les gens ils mangent plus avec le confinement.
Ben oui, on voit plus ce qui se passe en ce moment, que les gens ils ont peur, ils veulent faire des provisions parce qu'ils sont dans l'incertitude.
Même pas ça, même chaque jour. Comme on ne sait pas si demain il y aura, alors on mange un peu plus, on a peur de manquer après.
Dis-moi toi, Sergios, tu as fait le tour des cuisines et des salles à manger, des sarcelles, et tu as vu que les gens, ils mangent plus.
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y en a qui mangent moins parce qu'ils sont stressés.
Et pas seulement pour ça. Comme on ne fait pas des activités physiques, on brûle moins de calories, donc on mange moins. Un homme qui court, il fatigue le corps, il a besoin de calories. Maintenant, Mistamar, la logique dit qu'on mange un peu moins, je ne sais pas. Bon,
alors, oui, mais comme on est enfermé, on fait des plus bons repas.
Pas bien.
Comme on est enfermé à la maison, on fait des bons repas. Quand on travaille, et des fois on ne mange rien, un petit sandwich, n'importe quoi. Mais là, on est à la maison, donc le manger, il est là et on mange.
Mais c'est grâce à nos shiurim que nous faisons. Nous avons une bonne activité, donc on n'est pas obligé de manger toute la journée. Bar Minan, ceux qui n'écoutent pas des shiurim et qui ne s'occupent pas toute la journée, il n'a rien à faire que de manger des cacahuètes. Alors effectivement, il peut grossir. Donc en vérité, que le shiurim, c'est une bonne diète. S'occuper, shiurim de toi ou autre chose. Il faut faire quelque chose, il faut s'occuper. C'est chasse de shalom, c'est vrai. Et quand on n'a pas à s'occuper, c'est une souffrance. Mais on peut chasse de shalom délirer. On fait toutes sortes d'idées, des soucis, on se monte la tête, des peurs et des...
C'est très fatigant. C'est très fatigant de rien faire.
C'est fatigant du fait que parce que la pensée de l'homme cherche à remplacer l'activité physique, l'activité normale, avec des idées. Et ces idées, les idées, quand elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas dans un but, elles ne sont pas constructives, alors les idées partent dans tout le sens. Et ça fait perdre l'homme, on devient dingue. C'est ça que la grande dit, donc tout botte. Quand une femme, elle a quatre servantes, on nous dit que quoi? Qu'elle est quand même obligée de s'occuper. Il ne faut pas qu'elle reste dans les chaises longues. Parce que Shiamoum, la batala, mais via les Shiamoum et des Shigaon, on devient fou quand on ne fait rien. C'est très dangereux.
Bravo pour le rassasiement. Pour le rassasiement, l'effet d'être rassasié. On a vu dans Brachot déjà, ça ne tient pas qu'à la nourriture. Ça veut dire quelqu'un, un aveugle, il n'est jamais rassasié parce qu'il ne voit pas ce qu'il mange.
Mazal Tov. Vous dites ce que le prochain Rashi. Nous lisons le prochain Rashi. Vous êtes avec nous. Im eino roe v'ochel. Vous avez Rashi là, sur notre souvient. Im eino roe v'ochel. Celui qui ne voit pas ce qu'il mange, alors il n'est pas rassasié. Alors Rashi dit, quel rapport avec la manne? Mais manne, ils ont bien vu qu'ils mangeaient. Alors Rashi dit un grand chidouche. Inorouev ochel, achilat haman toem ta'am kol haminim ve'einorouev et la manne. Dans la manne, quand on mangeait la manne, alors on pouvait imaginer c'est du chocolat suisse. Et ils sentaient le chocolat suisse, mais ils n'ont pas vu le chocolat suisse. Ils pouvaient s'imaginer que quoi? Que c'est un goût de prila, mais ils ne voyaient pas la prila. Et donc, ça ne le rassasiait pas. Ça veut dire de voir mon plat préféré fait partie des rassasiés. Donc, les gens qui sont bar minan à l'hôpital, on leur donne des compléments alimentaires, on leur donne un jus où il y a dedans plein de vitamines et des machins et de tout ce qu'on a besoin. Donc, ça nourrit le corps, mais il manquera psychologiquement quelque chose. Mais bon, c'est déjà bien qu'on mange ça, parce que parmi les gens qui sont à l'hôpital, qui ne sont plus capables de manger, ils s'affaiblissent. Au moins, ils peuvent boire ça. Mais ça ne rassasie pas bien, parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas ce qu'on mange. Alors, on va continuer. Amar Rabbi Yosef, Mikan Remes. D'ici, nous avons une allusion. Les soumin, les aveugles, chez Ochlin, ils mangent, et ils ne sont pas rassasiés. Les aveugles mangent, et ils ne sont pas rassasiés. Un aveugle n'est pas rassasié parce qu'il ne voit pas ce qu'il mange. Phénoménal. C'est phénoménal. Alors, les aveugles, ils font toute l'année qui pour.
Non, quelqu'un qui ne voit pas les bienfaits d'Hachem tous les jours.
Quoi?
Quelqu'un qui ne voit pas les bienfaits d'Hachem tous les jours, il ne sera jamais rassasié. Il ne sera jamais content.
Tu développes le proverbe de la Gemara dans un sens beaucoup plus large. Il existe aveugle avec les yeux gashmi, et il existe un aveugle dans un sens rouhani. Il est aveugle, il ne voit pas les bienfaits que Dieu lui donne. Il n'est jamais rassasié, il n'est jamais heureux. Il n'est jamais content. Waouh, il y a une Gemara qui dit, quand un enfant il est né, le poignet, il est fermé. Les enfants, ils tiennent comme ça leurs mains. Et l'homme qui quitte le monde, la main, elle était ouverte comme ça. Les mains sont ouvertes normalement. Pourquoi? Parce que quand l'enfant il arrive au monde, il dit, je vais attraper le monde entier. Il tient le poignet fermé, je veux prendre le monde entier pour moi. Et quand l'homme il quitte le monde, il ouvre la main, il n'a rien. Alors, il n'a rien gagné. Alors, Amar Abaye,
il y a même dans le, excusez-moi, même dans le négatif, la vue, c'est hyper, ça peut être, c'est très très néfaste.
J'ai pas compris.
C'est-à-dire, là, on dit qu'un aveugle, il est pas rassasié parce qu'il voit pas ce qu'il est en train de manger. Ça, c'est bon, il est pas rassasié. Mais dans les choses mauvaises, pas bien à voir, la vue, on voit que la vue, c'est quelque chose de fondamental. Même dans le.
Alors, tu veux nous citer le prochain morceau de Gemara?
Mais on dit bien, qu'on mange avec les yeux d'abord.
Tu veux nous citer le prochain morceau de Gemara?
Non, je n'ai pas vu la Gemara. C'est pas la
question. Mais nous, maintenant, tu vas voir la Gemara. Tu vas voir. Alors, Amar Abaye. Abaye, il dit Hilkar, c'est pour ça. Man de Itle Soudata, un homme qui a un repas, l'olechle elebeyemama, mieux vaut manger le jour. Si tu as un repas par jour, et tu veux le manger la nuit dans l'obscurité, ou tu veux le manger la journée quand tu vois, mieux vaut le manger la journée, parce que le fait que tu vois, ça te rassasie plus. Alors, quel est maintenant le dîne, un homme qui mange la journée, mais il ne regarde pas la nourriture? Par exemple, il est devant sa télévision. Il voit un match de football, il a le manger devant lui, et il mange, et il ne regarde pas la nourriture. C'est possible qu'il ne se rassasie pas? Le fait qu'il mange sans regarder, il mange peut-être le double, peut-être il mange le triple. Et quand sa femme lui dit, ça y est, t'as déjà fini, tu n'as pas une deuxième assiette, mais t'as mangé toute l'assiette. Ah, j'ai rien remarqué, dans ma deuxième assiette, j'ai encore faim. Comme il n'a pas regardé, peut-être ça ne rassasie pas. Je pense
non.
Que comme
ça...
Non, tu sais, non, mais attends, je vais t'expliquer. Il me semble, il n'y a pas de médecin ici, où il y a Norbert était là, non? Il faut... Si un homme, il mange et il regarde ce qu'il mange, alors ça provoque le suc gastrique, non? Ça aide à la digestion. Le fait, ils disent les médecins, il faut manger doucement, il ne faut pas avaler trop vite. Et il y a un phénomène psychologique qui fait que l'estomac, il digère bien et que l'homme profite. Mais quand l'homme, il est absent, il mange la tête, il est ailleurs et il ne regarde pas, c'est la digestion, peut-être, elle n'est pas tellement bonne. Est-ce qu'il y a un médecin ici qui peut confirmer?
Non, ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit la nourriture, on a l'expression « on salive d'envie ». C'est-à-dire que déjà, dans la tête, il y a des neurones qui travaillent, la salive commence à accélérer et les sucs gastriques, comme vous avez dit, commencent à préparer la digestion. Donc finalement, on mangera mieux, bien sûr.
On mange mieux en regardant la nourriture.
Bien sûr.
Donc, il n'est pas bien d'être devant son télé et de regarder et manger en même moment. C'est pas
bien. Non, puis même une fois, vous avez dit que si à la télé, il y avait des films sauvages ou des actualités avec des morts ou des choses comme ça, l'horrible maladame, vous avez dit une fois.
Alors, on attaque la Gemara. Hilkar, donc Abaye dit Hilkar, c'est pour ça, Mande it les Soudata, un homme qui a qu'un repas, il n'a pas plus. Mieux vaut le manger le jour et pas la nuit. Amarabizeira, Maikra, qu'est-ce qu'on déduit du psepasuk? Tov marei enayim mehalach nafesh. Tov, mieux marei enayim, la vision des yeux, mehalach nafesh. C'est quoi mehalach nafesh? Mais halach nafesh, ici, dans le premier sens de la Gemara, halach doit être une espèce de mettre le manger dans la bouche. Halach nafesh, c'est manger. Mieux vaut regarder que manger.
Ana, ça veut dire ana.
Mieux vaut la vision, mais halach nafesh. Bon.
Nana.
Ama Resh Lakish. Resh Lakish, il dit. Tov mare enayim beisha yoter megufo shel maase. On traduit ça vis-à-vis des femmes. Mieux vaut regarder une femme, c'est-à-dire se fera plus plaisir de voir une femme, yoter megufo shel maase, plus que la maase lui-même. La vision crée un plus grand plaisir que la chose.
J'ai une question, Rav. Dans le daf hier de Shabbat, on a vu que Rabbi Akiva, il nous dit « Kol sheyesh lo isha na'a bema'asim » parce qu'on l'avait demandé « Ezeu Ashir »
C'est pour les Talmid Chacham.
Non, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il demande? J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il demande?
D'après ce qu'on voit là-bas, c'est « Kol sheyesh lo isha na'a bema'asim » tout celui qui a une femme qui est belle dans ses actions, donc qui fait des bonnes actions, c'est ça que quelqu'un qui est Ashir. Donc, Kanirek, c'est plus dans ses actions que dans son physique.
Tamit Chacham, ça.
Non, pourquoi tu parles Tamit Chacham? Qu'est-ce qu'on préfère, les gens? Une belle femme physique, elle te casse les pieds? Ou une femme gentille, même Asim, et elle n'est pas la plus belle? Qu'est-ce qu'il est mieux pour un homme?
Ça dépend de l'âge.
Pour sortir, si on veut sortir, je préfère avoir une belle. Et pour la maison, je préfère avoir une gentille.
Alors, Baruch Hashem, que Dieu te donne une gentille femme, parce qu'il reste chez l'homme, ceux qui ont une méchante femme, eh bien, pour eux, la question ne se pose pas.
Serge,
ils connaissent qu'est-ce qu'il est mieux, une gentille femme ou une méchante femme. Ils n'ont pas ce doute-là, ils ne se posent pas la question. Si nous posons la question, c'est Baruch Hashem, on n'est pas tombé sur des méchantes femmes. Alors, où nous sommes? Tov, Mare, Ena. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, qui yiten bekos eino yitalech bemeisharim? Qui yiten? Celui qui donne bekos sur la coupe de vin eino, un homme qui met ses yeux sur le vin, yitalech bemeisharim. Il se promènera bemeisharim avec des choses droites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravami v'Ravasi. Il y a un machloket Ravami v'Ravasi. Chadamar, il a interprété comme ça. Kol hanoten eino bekoso. Chacun qui met ses yeux sur la coupe, ça veut dire qu'il est saoul, qu'il boit le vin, il devient alcoolique. Kol arayot kulan domot alav kimishor. Toutes les femmes interdites ressemblent pour lui kimishor, comme si c'est plat, aplati, ça veut dire c'est droit, tout est permis. L'alcool fait tourner la tête à l'homme et il pense que toutes les immoralités deviennent permises. Vechadamar, il interprète Kol hanoten eino bekoso, kol haolam kulo dome alav kemishor. Chacun qui met ses yeux sur le vin, chacun qui est alcoolique, le monde entier ressemble comme c'est aplati, c'est à lui. Il peut s'en prendre dans l'argent des gens. Tout devient permis. Il croit que l'argent des autres, ça lui appartient. Alors, Daga belev ish yesichena. C'est un pasuk de Michelet, parce qu'on a commencé à parler des psukim de Michelet. Donc, la Gemara, il y a Ravam et Ravasi, il y a deux interprétations de Ravasi. Donc, on aussi d'autres psukim de Michelet, où il y en a deux interprétations de Ravam et Ravasi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Michelet? Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Daga, un souci, belev ish, dans le cœur de l'homme, yesichena. Ça veut dire quoi? Yesichena. Rabbi Barabbas, il y a deux pshatim. Khadamar 1, il a dit Yesichena midato, qu'il oublie, qu'il la chasse de son esprit. Le souci devient embarrassant, le souci détruit la personne, donc il réfléchit dessus, il tourne autour. Mais la solution, c'est Yesichena midato, qu'il oublie, qu'il pense à autre chose. S'il pense à autre chose, le souci fait moins de mal. Bechad Amar, un, il a traduit Yassichen al-Achirim, qui le raconte à d'autres. Le fait de raconter à l'autre, ça diminue le souci. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Yassichen al-Achirim, Shema Yassihuhu Eita. Peut-être l'autre va lui donner un conseil. Quand tu as un souci, tu demandes un conseil, l'autre donne un conseil, peut-être le souci va trouver la solution. Donc, le fait de rester enfermé, seul, et on raconte à personne, c'est ça qui fait que le souci ne trouve pas de solution. Alors, on tourne autour du problème et on ne trouve pas de solution. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas avec quelqu'un d'autre. Donc, il est important d'avoir des gens avec qui parler. Comme ça, le souci va se diluer. On peut lui donner un petit conseil.
Les donc, psychologues, ils ont bien compris ça.
Hein?
Les psychologues, ils ont bien compris ça.
Qu'il faut que la personne, il parle.
Comme ça, elle extériorise. Elle ne garde plus en elle.
Ouais. Tu vois, au psychologue, des fois, il faut payer d'argent. Sinon, on s'écoute son héros. Alors.
Bref, on...
Quoi?
Un raf, c'est mieux, c'est moins cher.
Excusez-moi.
Pas besoin d'un raf, n'importe qui, n'importe quel homme à qui tu partages ton souci peut te donner un conseil. Yassichenu l'acherim. Alors.
Raf, excusez-moi. Mais on voit dans David Améler, il avait plein de soucis.
Je ne vous entends pas bien. Votre truc n'est pas
malgré
bien.
Malgré tout, tous ces soucis. Vous m'entendez mieux là? Vous m'entendez?
Oui, mais.
Vous m'entendez là?
Oui.
Et là? David oui. Améler, il a mis tous ses soucis, c'est Hachem qui le protégeait. Il mettait tout dans ses télim, c'est lui ma force, c'est lui mon sauveur. Et donc son souci, c'était qu'Hachem, toujours il était.
Eh ben, il avait un bon copain, David Améler, c'est bien.
Non, mais...
On nous dit qu'il faut raconter à son copain, comme David Améler restait le copain de Dieu, c'est bon. Il a mis les soucis sur Dieu et Dieu le conseille bien. Il a bien fait, David Améler. Ouais. Et bien voilà, tu peux prendre Dieu pour ton copain, tu lui racontes tes soucis et il va te donner un conseil. Tu as raison. Alors, et donc, nous avons ici donc, le mot Yesichena à deux traductions. Donc, d'après la première explication, Yesichena, bien la shon Hesechadaat, ça veut dire chasser de l'esprit. Et d'après le deuxième chat, Yesichena, il raconte à d'autres. Venachash afar lachmu. Le verset dans Yeshaya, il dit Nachash, le serpent, afar la poussière, lachmo, c'est son pain. Rabbi Ravasi, il dit Chadamar 1, il dit Afil ukhel kol ma dene olam, un serpent, même s'il mange tous les délices du monde, toem bahem ta'am afar. Tout a pour lui un goût d'afar. Il n'a pas, ça veut dire que le serpent n'a pas les papilles gustatives des goûts. Un chien qui mange la viande, ils sont un goût de viande. Il mange des pommes de terre, ils sont un goût de pommes de terre. Mais le serpent, sa langue, elle est dépourvue des papilles gustatives. Donc, il n'a pas de goût. Donc, le serpent, il avale. Le serpent, il peut avaler un mouton entier. Il avale les choses et après, dans le corps, ça se dissout. Mais en vérité, il n'a aucun goût. Donc, ça, c'est Nachash, Afar, Lachmo. Et en quoi c'est important? Et qu'est-ce que Yeshaya voulait nous raconter avec ça? Pour nous dire que le serpent, il n'a pas de goût quand il mange. Mais ça, c'est important à savoir pour les chefs des eaux. Ça, c'est pour les amis des animaux. Mais pourquoi Shlomo HaMelech nous raconte ce phénomène? En quoi nous avons besoin de savoir si le serpent, il a un bon goût, il n'a pas un bon goût? C'est bien sûr pour le Nimshal. Parce que le serpent, il est comparé à qui? À l'homme qui parle la Shonara. Et la question, elle est, quand on parle la Shonara, est-ce qu'on a un goût? On parle la Shonara et on détruit les gens avec la Shonara. Mais est-ce que ça nous rapporte un plaisir? C'est ça la question. Le serpent, il mange, mais il n'a aucun goût. Quand on parle la Shonara, est-ce qu'on a un goût? Si au moins tu voles, alors tu deviens riche, alors il y a un goût, tu es devenu riche. Alors, mais quand on parle mal et on détruit les autres, les Chora, il n'y a pas de goût dedans.
Il y a un risque, celui qui parle avec ce, quand il y a des problèmes et qui parle avec quelqu'un de ses problèmes, il risque de faire du lashon hara. Et là, il va trouver un goût.
Je n'ai pas compris.
On a dit qu'il faut parler avec ses amis si on a un problème. Comme ça, les amis, ils nous trouvent une solution. Mais malheureusement, lorsqu'on parle avec ses amis de ses problèmes, on risque de faire du lashon hara. Et là, il y aura un goût pour le monsieur, même si c'est un nachash.
Alors, ça, c'est une explication. Vechad Amar, hein, il a dit, « Afilu ochel kol madane olam, ein da'atom yushevet alav, ach yochal afar. » Le serpent, même si tu vas lui donner tous les madane olam, tous les merveilles du monde, « ein da'atom yushevet alav. » Il n'est pas content, le serpent, tant qu'il ne mange pas de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Mehmet, il mange la terre? Est-ce que Mehmet, le serpent, il mange de la terre?
Le serpent, il a été maudit. Il mange tout. Il lui a dit, Hachem, il lui a dit, tout ce que tu mangeras, ça sera de la poussière.
Mais est-ce qu'il mange de la terre?
Il mange tout. Il mange tout ce qu'il trouve.
Il mange, mais pour manger, c'est pour, après, pour se nourrir. Il mange, il se nourrit. Est-ce que quand il mange la terre, il se nourrit de la terre?
Il faut qu'il remplisse son ventre, c'est tout.
Quoi?
Il faut qu'il remplisse son ventre, c'est tout.
Remplir le ventre, c'est tout?
Non. Tant... Mais non, tu dis n'importe quoi.
Pourquoi peut-être, tant qu'il a...
Mais n'importe quoi.
Tant qu'il a le ventre rempli.
Il faut fermer ici, il y a quelqu'un qui laisse ouvert. Il faut fermer les trucs. Alors... peut-être il remplit son ventre. Malgré qu'il n'y a pas de force. Le massé, quand un serpent il avale un mouton, dans le mouton il y a des os, il y a la peau, et ça il digère aussi, il peut tout digérer. Quand il avale un chevreau, il y a des cornes, même les cornes, c'est gastrique, vont dissoudre tout. Phénoménal, les serpents, c'est spécial. Alors, il doit manger à la fin Tchiochal Afar. Il n'est content que s'il mange du Afar. Tanya, on a vu dans une braïta, Amara Biosi, Bourei, viens, regarde. Shlok Midat, Akadesh Baruch Midat, Basar Vadam. Dieu ne se comporte pas comme un homme, il se comporte. Midat, Basar Vadam, Maknit et Travero. Un homme qui énerve l'autre, qui le vexe, yored imo le chayav. eh bien, il essaye de lui casser sa parnassa. Il est fâché, il est prêt à faire foutre la parnassa de l'autre. Aval HaKadosh Baruch Hu Eino Ken, mais HaKadosh Baruch Hu n'est pas comme ça. Kilel et Anachash, quand Hachem il a maudit le serpent, Olé, le gag, quand le serpent il monte sur le toit, mais on otavimo, il trouvera quoi manger. Il y aurait de la mata, quand il descend en bas, mais on otav, imo, il trouve sa nourriture. Comment ça marche ici la comparaison? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que Hachem, il ne le fatigue pas à trouver sa nourriture, puisque quel que soit l'endroit où il se trouve, il aura de quoi manger.
Encore une fois, Midat Basar Vadam, il faut voir ici la comparaison. Midat Basar Vadam, la nature de l'homme, Maknit et Travero, un Rouven, il énerve Shimon, Yored, Imo le Chayav. Alors Shimon, il veut détruire la parnassa de Rouven. Si Rouven énerve Shimon, Shimon veut se venger. Kol davar shu yachol lahaknito ou lahafsito ou yored. L'Ichora, la première lecture.
Le serpent, il a énervé Hachem.
Peut-être il y a ici une autre lecture, mais je vais essayer d'abord la première lecture. Si Rouven a vexé Shimon, Shimon essaye de vexer Rouven, de lui faire du mal, ou la fsidu yored, il est même prêt à casser la parnassa de Rouven. Aval HaKadosh Baruch Hu Enoken. Mais HaKadosh Baruch Hu ne se comporte pas comme ça. Kilel et Anachash, Dieu il a maudit le serpent. Et le serpent, il a toujours sa parnassa. Maintenant, dans cette comparaison entre Dieu et l'homme, quel rôle joue HaKadosh Baruch Hu et quel rôle joue le serpent? Qui est le serpent? Qui est HaKadosh Baruch Hu dans le premier cas? Au début, nous avons un Rouven et nous avons un Shimon. Rouven énerve Shimon et Shimon essaye de détruire Rouven. Et on dit à Kadosh Baruch Hu n'est pas comme un homme. Alors comment ça fonctionne maintenant ici? Ça veut dire que c'est le premier qui a vexé l'autre, ou à Kadosh Baruch Hu, il est celui-là qui aurait voulu se venger mais qui ne se venge pas.
Oui. Non, le serpent il a énervé Hachem.
Oh.
Et Hachem il ne se venge pas.
Oh. Alors comme ça. Le serpent il a énervé Hachem. Donc, j'aurais pu croire, hein, le serpent, il a énervé Hachem. Donc, Hachem, il dit, je vais te punir. Et il y aurait dit mal à Chayav. Et maintenant, je vais te chasser, je vais te casser ta parnassa. Or, on n'a pas cassé la parnassa du serpent. Le contraire, il lui a donné une klala qui fait que quoi? Qu'il trouve la afar tochal kolim echayecha. Tu mangeras de la terre partout. Ta vie, et la terre, elle se trouve partout, et donc il lui a facilité sa parnassa. Voilà.
En fait, l'homme, quand il est son prochain, lorsqu'il a une sina avec son prochain, quoi qu'il arrive, il voudra lui faire du mal constamment. Alors que Dieu, lorsqu'il a haï le serpent parce qu'il a fait une bêtise, il n'y a plus de conséquences derrière. Lui, il a à manger, il peut monter sur le toit, il peut descendre en bas, il aura quand même à manger.
Oui, donc, mais en vérité, le pshat de la Gemara, il y a un truc qui est dans une autre Gemara. La Gemara pose la question, comment ça se fait que le serpent, quand Dieu le maudit, il a été récompensé? Si Hachem dit, tu manges la poussière de la terre, donc il trouve partout la poussière de la terre, alors il est content, le serpent. Alors, il n'est pas puni, il est récompensé. Ça, c'est le couchat de la Gemara. Elle est ailleurs, je ne me rappelle pas où. Alors, quand on reprend, Machalma de Vardomé, il y avait une fois un roi. Et le roi, il avait deux amis. Et les deux amis sont venus tous les jours chez le roi. Et le roi, il leur a donné quoi manger. Un jour, Un, il s'est fâché avec le roi. Il a vexé le roi. Alors le roi, il a dit, voilà ton argent pour toute l'année. Alors, et l'ami, il est venu le lendemain et il a dit, comment ça se fait qu'à moi, vous me donnez tous les jours 100 euros, pourquoi manger aujourd'hui? L'autre lui a donné 10 000 euros. Alors il dit, parce que toi, je t'aime. Donc je veux te voir tous les jours. Ça m'est agréable que tu viens. Donc tous les jours, je te donne tes 100 euros que tu as besoin. Mais l'autre, je ne supporte plus. Je ne veux plus qu'il vienne me voir. Donc je lui ai donné la nourriture au début pour toute l'année. Comme ça, il ne me casse pas les pieds. Donc à Kadesh Baruch Hu, il a dit que tous les autres animaux, ils ont du mal à trouver leur parnassa. Donc, ils prient vers Dieu. Les animaux, ils prient vers Dieu. Donc, c'est Hachem leur donne tous les jours ce qu'ils par jour. Mais le serpent, comme Hachem, il est fâché avec lui. Donc, il est dit, dégage. Et je n'ai pas besoin que tu viennes. Tu peux. Donc, c'est ça qui est marqué dans la Gemara. Hachem, il ne se comporte pas comme un homme. Le serpent, il a énervé Hachem. Hachem, il a dit, je vais te punir. Mais la punition, elle est que tu trouves partout ta nourriture. Comme ça, tu me casses les pieds, casses plus les pieds, tu ne viens plus me voir, je ne veux pas te voir. Les autres animaux, Hachem veut les voir. Vérité, c'est un peu la canson.
Qui est mieux alors? C'est l'homme ou c'est Hachem?
Que quoi que compte un homme? Il est pauvre, il ne sait pas qu'est-ce qu'il mange, donc il prie à Hachem, donc il est proche d'Hachem. Des fois, Hachem, il veut que les gens y prient, donc il les prive de quelque chose, donc ils sont obligés de venir chez lui. Mais un homme qui a tout, il a la santé, il a l'argent, il a tout. Donc, il se prend, il est indépendant de Dieu. Il ne vient pas vers Dieu. Donc, peut-être Hachem le punit. Si Akadosh Baruch Hu donne à quelqu'un, Rahman al-Etzlan, 1 milliard, ça veut dire quoi? Dégage, je sais que tu ne vas plus me prier. Tu as ton argent jusqu'à la fin de ta vie. Et donc, tu ne dépends plus de moi. Donc, tu vas m'oublier. Eh bien, c'est bien, tu n'as qu'à m'oublier, moi aussi je t'oublie, je n'ai plus besoin, tu me casses les pieds, tu es comme le serpent, tu as ta parnassa, jusqu'à pour les prochains 3000 ans, tu as ta parnassa. Des fois, ça peut être ça le pshat, c'est pour ça qu'il est marqué que l'homme il les oreilles de Hachirut, il faut qu'il fasse attention de ne pas entrer dans la catégorie de ceux qu'on ne veut plus de lui, reste shalom.
Ici, dans la Gemara, qui est Dieu? On compare l'homme et Hachem. On dit que quoi? Que Hachem, en fin de compte, puisqu'il a puni le serpent, il l'a renvoyé. Donc, il est beaucoup plus dur que l'homme. C'est ça qu'on veut dire? Ou le contraire? Il y a deux pshatim.
Non, il n'y a pas de pshatim. Il n'y a qu'un pshat. Un homme, quand on le vexe, si Rouven il vexe Shimon, Shimon, pour se venger, il essaye de casser Rouven. Il veut lui casser sa parnassa. Rouven, il a un magasin de chaussures et il a vexé Shimon. Eh bien, Shimon, il raconte dans toute la ville, c'est un voyou, achète plus et ses chaussures sont mauvaise qualité, n'achetez pas chez lui. Il veut lui casser sa parnassa. L'homme, il veut casser la parnassa de l'autre. Mais il y a des gens, on n'est pas comme ça. Il est serpent, il a énervé Hachem. Hachem, il dit, je vais te punir, mais je suis là, je te donne quand même à manger, le contraire.
Il l'abandonne.
La nourriture est bien. Ici, la Gemara veut dire que le comportement d'Hachem est plus noble que le comportement de l'homme. C'est ça que la Gemara veut nous dire. Il n'y a pas de pshat, il n'y a qu'un pshat. Alors, on va continuer. Alors, qu'il est l'etknan, on continue dans le même lancé, qu'il est l'etknan, et quand Hachem il a maudit Knaan, Ochel, ma sherabo, Ochel, Veshote, ma sherabo, Shote. Il a maudit Knaan, qu'est-ce qu'il a maudit? Qui sera esclave. Alors les gens, ils peuvent s'imaginer, c'est une malédiction. En vérité, il y a dedans une grande bénédiction, parce que Ochel, il peut manger ce que le patron mange, il boit ce que le patron boit. Parce que le patron, il est obligé de nourrir son esclave. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? La Gemara nous dit quelque chose de fantastique. De quoi? Que l'esclave, il n'a plus le souci de se nourrir. Un homme qui n'est pas esclave, un homme qui est libre, il doit chercher du boulot, il doit apprendre un métier, il doit faire la queue à la là où il distribue la nourriture, le travail, comment ça s'appelle, à la
Pôle emploi.
Il fait la queue, il doit faire des CV, il doit essayer de se vendre, sinon il n'a pas quoi manger, donc il doit courir, il n'est pas assuré. Mais l'esclave, il ne se casse pas la tête, il travaille chez le patron lui donne à manger. Il y a beaucoup moins de soucis.
Et les fonctionnaires.
Il est fonctionnaire. Alors, oui. Alors, donc, ça veut dire que c'est une bracha en vérité. Aujourd'hui, dans le monde, ils ont annulé l'esclavage. Alors, il y a les problèmes de chômage et des sans-logis. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de travail. On est obligé de les nourrir. Mais dans les pays où il n'y en a pas d'allocation, il n'y en a pas l'aide dans tous les pays du tiers-monde. Au Pakistan, ceux qui ne travaillent pas, où il aura quoi manger. Donc, ceux qui est esclave, dans ces pays, il est esclave et le patron lui donne à manger, il est content, il travaille, il est nourri, il n'y a pas mieux que ça. Donc, pour ces gens-là, il n'y a pas mieux que l'esclavage. Parce que dès que quoi que tu vas le libérer, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas se prendre en main, il ne sait pas comment gagner sa parnassa. Donc, en vérité, il y avait dedans ici une bénédiction pour lui. Donc, on est ici, on parle toujours quand Hachem, il a puni quelqu'un. Le premier qu'il a puni, c'est le serpent. Il lui a donné la parnassa large. Le deuxième qu'il a puni, c'était qui? Canaan. Il lui a donné sa parnassa. Et qu'il est la taïcha, c'est marqué, Velaïcha Amar. Il a puni Chava. Et après cette punition, Hakol Ratzina Chareha, tout le monde, il court derrière la femme. Donc, elle est en vérité, elle est chérie. Est-ce que ce fait que tout le monde court derrière, c'est bien de la malédiction qu'Hachem a donnée à Chava et avant qu'elle ait été maudite? Est-ce qu'il n'y avait pas ce phénomène d'Hakol Ratzina Chareha? On dirait que non. On dirait que tant que Chava n'a pas mangé les fruits, c'est la nature n'avait été pas comme ça que les gens courent derrière. Donc elle dépendrait de son mari. Tout il dépend du mari. Avant Chava, elle était la femme d'Adam. Donc elle était fidèle. Il était fidèle. C'était un bon couple. Mais personne ne s'est intéressé à elle. Mais après qu'elle a fauté, elle a reçu la punition. Alors maintenant, tout le monde court derrière. Et où ça se trouve dans le texte? Bishlam chez le serpent, ça se trouve dans le texte. Qu'est-ce qu'il dit sur le serpent? Afar tochal kol yemei chayecha. De la terre, tu vas mordre toute ta vie. Et donc, c'est marqué dans le texte qu'il lui a donné la bracha, qu'il trouve la parnassa partout. Et chez l'Eved aussi, il a maudit Knaan, il a dit Eved Avadim. Du moment qu'il a dit Eved Avadim, automatiquement, il a un patron qui lui donne à manger. Mais où dans la klala de Chava c'est marqué que Hakol Ratzim Achareha? Faut que je prenne un fromage. Une seconde.
Et dites-moi, c'est une chance que les gens aient du cours derrière? Là, on a dit, il a maudit, et comme il donne la parnassa, et là, il a maudit, et en plus, il lui donne un truc que les gens lui courent derrière. Quel est l'intérêt?
Et quand le mari se fâche avec sa femme, et il a divorce, quand le mari divorce, elle n'a pas besoin de craindre qu'elle va rester dans un coin, elle aura déjà des propositions. Les gens, ils vont courir derrière elle. Et elle va trouver un chidour, c'est ça le...
Ah, c'est que en cas de divorce, alors.
Alors, on va voir. Alors, où il est marqué? El Haïcha Amar. À la femme, il a dit, Harba, Arbe, Itzvonech, Veheronech. Beaucoup, beaucoup, je multiplierai Itzvonech, ta douleur, Veheronech, et la douleur de ta grossesse, Veetzeftel Dibanim. Avec tristesse, tu vas accoucher des enfants. Ve'el ishech teshukatech, vers ton mari sera ton désir. Ruyim sholbach. Et c'est lui marqué le fait que les gens ils vont courir derrière. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas où ça se trouve pas. Ça, je ne sais pas, il manque ici quelque chose. Alors.
C'est pas Elishar Teshukater, c'est pas le sens. Elishar Teshukater, c'est pas ça.
Ça veut dire que la femme, elle court derrière l'homme. Mais la Gemara nous dit ici, que les hommes courent derrière la femme. C'est pas ça, les Chorams. Alors, on va continuer. Il est l'état Adama. On va continuer dans quoi? Dans les punitions qu'Hachem il a données. Qu'il est l'état Adama. Il a maudit la terre. Où il a maudit la terre? Où Hachem il a maudit la terre?
Justement, Chet Adama Arishon.
Où il est marqué dans la Torah qu'il a maudit la terre?
Arora Adama Bavurecha.
Arora Adama Bavurecha.
Non, c'est à cause de Caïn et Abel. Quand il a bu le sang de qu'il a tué son frère.
Non. Ou l'Adam Amar. C'est après le chet d'Adam et Chava. Ou l'Adam Amar. Adam, il a dit. Qui s'est le collège de Echa parce que tu as écouté la voix de ta femme? La terre, elle est maintenant maudite pour toi, à cause de toi. Difficilement, tu la mangeras. L'ach et du chardon. Et toutes sortes de choses qui embêtent va pousser, va halta, tu mangeras et se fassade. Alors, la terre, elle était maudite. Alors, donc, Hachem, il a maudit la terre, et Hakol Nizanim Hemena, et tout le monde est nourri par elle. Et comment ça a été avant le péché? Et avant le péché, la terre n'était pas là pour nourrir les gens? On dirait que la malédiction a provoqué que quoi? Que maintenant tout le monde se nourrit de la terre. Et comment ça a été prévu au début? Que les arbres de fruits qui restent au Gan Eden. Ah, si Adam Rishon n'avait pas poussé, il aurait mangé les fruits. Parce qu'il a dit, tu peux manger Mikol Etzagan Achol Tochel. C'est une nourriture beaucoup plus raffinée, les fruits au Gan Eden. Ce n'est pas la terre. Adam Arishon n'était pas obligé de manger des légumes et travailler la terre et le blé. Il mangeait les arbres. Tout était, pas besoin de labourer, pas besoin de semer. Il mange des fruits d'arbres. Et après qu'il a fauté, maintenant c'est de la terre. À col, il mange de la terre.
Et même le tronc était mangeable.
Oui, c'était mangeable.
Oui, mais comment Kadesh Baruch Hu, au début, il a déjà créé le mardi de la création du monde, il a bien créé. Il a déjà créé tous les légumes depuis au début, parce que le bon Dieu, il savait qu'Adam, il va fauter. C'est-à-dire, Hachem, il a préparé tout. Il a préparé mardi qu'il y a des légumes, qu'il y a du blé, qu'il faut semer. Il a tout préparé. Mais il a mis Adam à Rishon à Gan Eden. Je te donne une chance. Si tu ne fautes pas, eh ben, tu mangeras les fruits de l'arbre. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as pas besoin de s'abaisser. Tu ne mangeras pas de légumes. Tu n'as pas besoin. Tu as des meilleurs. Tu as des fruits. Mais Hachem, il savait qu'il va fauter. Donc, il a fauté. Donc, il a dit, maintenant, la terre, elle est maudite. Maintenant, tout le monde va manger la terre. C'est-à-dire qu'il a le bourré-pri ha-etz, ben-met, il a plus de valeur que la bracha bourré-pri ha-adama. Comme ça. Mashma, il a fait. Bon. On va voir à
14h.
Oui.
Comment dire? Il lui a dit, tu as écouté ta femme, c'est pour ça que tu seras puni. Aujourd'hui, on doit écouter pareil ou pas?
Je n'ai pas compris.
Écoute toujours ta femme, tu seras content.
Et qu'est-ce qu'il demande?
Non, Hachem, il a dit, comme tu as écouté ta femme, tu seras chassé. Aujourd'hui, il faut écouter sa femme ou pas?
Toujours.
Yalla, je demande au Rav, moi.
Mais je te réponds, moi, je te dis.
C'est pas Rav, quoi.
Mais c'est quoi la réponse? La réponse, elle est... Si elle te donne un bon conseil ou un mauvais. Si elle te donne un bon conseil, écoutez, qu'est-ce qu'elle dit la camarade dans Baba Metzia? Itza gutza, si ta femme elle est petite, abaisse-la, abaisse-toi et écoute ses conseils. Alors la camarade demande, mais on a vu une autre mahamar, ce qui écoute les conseils de sa femme ne réussit pas. Et l'autre mahamar, il a dit, baisse-toi et écoute les conseils de ta femme. Alors c'est le coucher de la Gemara. Alors c'est quoi la réponse? Et si on parle des affaires de la maison, il faut écouter. Ce qui se passe à la maison, la femme, elle est meilleure. Elle comprend mieux les choses. Elle sait mieux comment il faut gérer la maison. Écoute. Et des choses, Alma, ce qui est dans le monde, à l'extérieur. L'homme, il est le ministre d'extérieur. La femme, c'est le ministre d'intérieur. Donc, elle comprend mieux pour la vie intérieure. Et le mari comprend mieux la vie extérieure. Normalement, on parle normalement. Des fois, c'est le contraire. Et on parle dans la normale des choses. C'est comme ça. Et la deuxième réponse de la Gemara, ici, on parle des choses de ce monde. Ici, on parle des choses de l'autre monde. Les choses de l'autre monde, normalement, l'homme, il est plus instruit. Il était au cheder, il était à la yeshiva, il était au kollel, il connaît mieux comment il faut gérer la partie rouhani. Donc ça, il ne faut pas écouter. Et les autres choses du monde, il faut bien écouter. Les choses terrestres, la femme, elle comprend mieux. Mais bon, tout ça, ça c'est dans la globalité que la Gemara nous raconte. Maintenant, il y a des détails, il y a des cas que ce sont le contraire. Mais je vais dire encore un rashi. J'ai vu que j'ai oublié un rashi. Ici, on a vu dans la Gemara, Daaga belev ish yesichena. Un souci dans le cœur de l'homme, yesichena. On avait vu machloket rava mi beravasi. Un, il est dit yesiach daato, qu'il oublie le souci. Et l'autre, il est dit qu'il raconte à l'autre. Alors, il y a un rashi ici. Qu'est-ce que c'est daaga? Comment rashi traduit daaga? Vous avez rashi dans la troisième ligne. Daaga, pachad, du peur. Chez Doeg, il se soucie al hefset shum davar de perdre quelque chose. Pen yevo eru, peut-être il arrivera à une perte. Daaga, c'est quelque chose. Un homme, il a peur d'arriver à une perte, et il a peur d'arriver à une perte, et cette peur d'arriver à une perte. Donc la solution, elle est soit tu oublies ce souci. Soit tu le partages avec un autre et l'autre peut peut-être te donner un bon conseil. Bon, alors, à 14h, les attachés, une bonne nouvelle.